Souvent, on se dit, mais elle a un bon mental, comment ça se fait qu'elle n'est pas allée au bout? À l'époque, on ne parlait pas d'émotion. Le mental était un petit peu, ça restait léger aujourd'hui, il n'est plus arrivé dans notre société. Même la santé mentale encore aujourd'hui. Je peux être submergée par mes émotions, je peux travailler pour descendre cette intensité, je peux la basculer et en faire un levier de performance.
Bienvenue chez Healthwise, le podcast présenté par Sonde Naturelle qui nourrit votre santé, votre corps et votre esprit. Je m'appelle Noémie Jobard et ensemble, on explore tous les moyens d'être ou de rester en bonne santé. Médecine, sport, nutrition ou santé mentale, autant de sujets qu'on aborde ici avec les conseils avisés d'experts au service de votre bien-être. Un épisode, une thématique. C'est parti!
Technique, entraînement physique, stratégie, nutrition, dans les coulisses des performances sportives de nos athlètes, tout est parfois réglé comme du papier à musique. Or, derrière cette préparation, il y a des humains qui ont peur, qui sont motivés à bloc et qui ressentent la pression, l'excitation ou le doute. Des émotions qui façonnent souvent notre capacité à nous dépasser, mais qui influencent nos prises de décision et donc nos actions. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de l'accompagnement émotionnel chez les athlètes en essayant d'identifier et comprendre comment nos émotions peuvent devenir un allié de notre performance. Tout ce qui va être dit dans cet épisode n'est pour moi pas réservé uniquement aux sportifs de haut niveau puisque les défis émotionnels que ces personnes vivent, nous les vivons toutes et tous à notre échelle, dans la vie de tous les jours, que ce soit pour un examen, une carrière, un projet personnel ou un objectif de vie. Alors ensemble, je vous emmène dans un véritable entraînement de nos compétences émotionnelles, gérer le stress, rester concentré, retrouver sa motivation, faire face à l'échec, canaliser son énergie, tout ça, ça s'apprend. Et on commence aujourd'hui avec une invitée très spéciale à mes côtés, Delphine Aubert. Bonjour Delphine.
Bonjour Noémie.
Ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode de Healthwise. Quand on s'est rencontrés, tu m'as raconté ton histoire. Alors, je vais essayer de te présenter, présenter ton parcours qui est très singulier. Et tu m'arrêtes bien sûr si jamais tu veux ajouter quelque chose. Alors, tu es coach émotionnel sportif spécialisé en intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, tu accompagnes les athlètes comme tu aurais aimé qu'on le fasse pour toi, parce qu'il y a quelques années, c'était toi qui étais à leur place. Auparavant, tu étais sportive à un niveau national et tu aspirais à continuer ton ascension. Ouais. Mais malgré un bon mental, il y a quelque chose qui t'a manqué pour y accéder. C'était une écoute intérieure, on peut dire ça, profonde, un accompagnement émotionnel. Donc, on va en parler plus tard en détail. Mais après ta carrière nationale, pour garder un pied dans le monde qui te passionne, tu as quand même continué à travailler dans l'industrie du sport. Et quelques années après, tu as finalement traversé un burn-out. Tu as noué un lien intime avec tes émotions et tu as fait un véritable travail intérieur qui t'a permis de découvrir un profil HPE. Donc, ça veut dire haut potentiel émotionnel. Et donc, ça s'ajoute à une compétence innée qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Est-ce que c'est ça jusque-là?
C'est parfait.
Le parcours. En fait, de ce que j'ai compris, tu vis depuis toujours tes émotions avec beaucoup d'intensité. Elles te traversent, elles te parlent, elles te guident même. Alors que dans le monde du sport, on valorise plus souvent la force, la performance, même la force mentale. Toi, tu as décidé d'ouvrir une nouvelle voie en plaçant l'intelligence émotionnelle au cœur de la performance, alors que dans le monde du sport, on valorise plus souvent la force mentale et la performance que de placer l'intelligence émotionnelle au cœur de l'entraînement. Toi, tu as réuni cette compétence que tu as avec ton HPE et tes expériences de vie, aussi bien sportif que en tant que fan, pour apporter une vraie innovation dans le monde du sport français, pour être la seule coach émotionnelle de France. Alors, je suis quand même hyper curieuse de savoir si toi, tu continues quand même à pratiquer du sport, et en tout cas, est-ce que tu continues à le pratiquer le dimanche?
Déjà, bonjour Noémie, ravie déjà de m'inviter sur ce podcast. Je suis très contente d'être avec toi. Pour répondre à ta question, on va commencer par ma passion, qui est le sport. Oui, je vais te dire un grand oui. Le sport fait entièrement partie de ma vie. Il m'anime, il me permet énormément de choses. Il me permet, on verra ça tout à l'heure au fil de notre podcast, qu'il me permet autant, c'est un équilibre émotionnel déjà pour moi. Il me permet autant de m'exprimer. Je m'exprime à travers le sport, je ressens des choses, il se passe des choses. Et il me permet aussi de me libérer de certaines intensités émotionnelles que je peux rencontrer. Et voilà, je pratique plusieurs sports qui m'amènent des choses différentes.
C'est quoi tes sports de prédilection?
Alors, on va dire, j'ai le tennis qui m'amène énormément aussi de choses au niveau émotionnel, voilà, de prise de conscience émotionnelle, on verra ça aussi tout à l'heure. Et puis la boxe que je garde au fond de moi depuis maintenant pas mal d'années, qui m'a appris aussi, alors ça c'est un vecteur de libération émotionnelle qui est puissant. Je ne le fais pas sur un ring, je te rassure.
Tu fais ce que tu veux, hein. C'est vrai que quand on est sur un ring, on vit d'autres émotions.
Oui, en fait, j'ai plutôt un coach privé, voilà, okay, qui me fait travailler pas mal de choses. Mais pour revenir au sport, oui, c'est vraiment ma passion. Je continuerai, je pense, toute ma vie, parce que c'est vers ça que j'ai toujours avancé. Pendant mon burn-out, je n'ai pas fait de sport. Ça m'avait demandé tellement d'énergie déjà de me reconstruire que je ne m'étais pas rendu compte à quel point le sport avait cette importance aussi. Et maintenant, voilà, l'équilibre, il est là. Il est avec cette passion qu'est le sport et qui a fait que toute ma vie, je suis restée dans cet univers.
Et tu as arrêté complètement le sport que tu faisais au niveau national ?
Oui, alors c'est-à-dire que j'en ai fait quelques années après. Donc, je pratiquais du golf. J'ai pratiqué à 14 ans. J'ai pas pratiqué longtemps, mais je l'ai pratiqué intensément à un niveau important. Par contre, je pense que c'était après du trop plein du sport, puisque j'en ai fait énormément. Ça me demandait toutes mes vacances, tous mes mercredis, tout. Mais voilà. Après, je me suis dit, je le laisse de côté. C'est un sport qui est dans mon cœur. Je pense que je pourrais y revenir plus tard dans ma vie. Je dirais pas à la retraite, mais voilà. C'est un sport qui restera pour moi gravé et qui m'a appris énormément sur moi.
Et tu as d'autres hobbies, d'autres passions que le sport ?
Oui, j'ai beaucoup de choses. La culture, je m'intéresse beaucoup et surtout à la peinture. Il y a un grand lien avec les émotions. Là, je repense à Kandinsky, la dernière expo que je suis allée voir à la Philharmonique, qui m'a énormément séduite parce que c'est là où on voit le parallèle de l'émotion par la musique. Donc ça, c'est un vecteur qu'on verra un peu plus tard. Voilà, ça me parle. J'ai ressenti des choses. J'étais émue. Moi, je fonctionne comme ça.
Donc, tout ce qui est artistique et tout ce qui est artistique. Le sport.
Ouais. Comme je disais tout à l'heure, c'est un moyen d'expression.
Ouais.
Le milieu artistique est très émotionnel. Si tu prends par exemple, on parle des peintres, on va parler des écrivains, on va parler des musiciens, que ça soit le chef d'orchestre aussi bien que le compositeur, ils ressentent énormément d'émotions. C'est-à-dire que les HPE, on les retrouve beaucoup dans ce domaine-là. Et en fait, c'est un moyen pour eux soit de s'exprimer. Donc, ils composent les notes par rapport à leur ressenti. Ils vont peindre leur toile avec leur manière de voir le monde, leur façon, leur palette de couleurs à eux, émotionnelle. Et c'est transposé, justement, dans les tableaux. Donc, ça, oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la musique aussi. Je me rends compte qu'en fait, je suis animée par tout ce qui m'amène de l'émotion. Donc ça peut être aussi bien un documentaire sportif, plus autant la musique, voilà, et puis les voyages, ressentir, être en présence. On le verra tout à l'heure aussi. Beaucoup d'émotions.
Tu as fait du coup un bon niveau pour arriver en national, surtout si tu étais très jeune. Tu avais l'air d'avoir un bon mental. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus, peut-être ce qui s'est passé, pourquoi tu n'as pas pu continuer ?
Oui, j'aime bien quand tu dis tu avais un bon mental. Souvent, on se dit, mais elle a un bon mental, comment ça se fait qu'on n'allait pas aller au bout ? En fait, je vais essayer de résumer un petit peu ma vision des choses. À l'époque, on ne parlait pas d'émotions, on ne parlait pas, le mental était un petit peu, ça restait léger aujourd'hui, plus arrivé dans notre société, même la santé mentale encore aujourd'hui. Je trouve que, voilà, à l'époque, je ressentais beaucoup d'émotions et je ne savais pas quoi en faire. En fait, je ne savais pas que j'étais au potentiel. Je me comparais pas, mais je sentais que c'était intense, qu'il se passait quelque chose, que mon corps me disait quelque chose, comme si c'était une boussole qui me disait « va là, va là ». Mais je ne suivais pas, parce que je ne comprenais pas. On verra tout à l'heure que de comprendre ses émotions, ça change beaucoup de choses. Donc, je pouvais pas mettre de mots sur mes mots, et en fait, je me suis laissée submerger. Des fois, je perds des pieds, alors que le mental, je l'avais. J'étais à un grand prix qui durait peut-être 4 jours. J'avais des grands prix de 4 jours. Donc là, il faut avoir le mental. On est nombreux. Ça dure 5 heures, un parcours de golf.
Ouais.
Donc, on a le temps de réfléchir.
C'est épuisant, quoi.
Épuisant. Puis on réfléchit. Il y a des pensées qui arrivent. On ressent des choses. Et je passais un petit peu... voilà, je sentais que je passais à côté de certains coups, etc. Et je pense que je vais citer l'exemple qui m'a marqué. Je crois que si je dois citer un exemple du golf dans ma carrière, petite carrière, c'est celui-ci. C'était la grande finale d'un Grand Prix sur plusieurs jours. Et si je gagnais, je partais en Écosse, quand même le fief, entre guillemets, hein, du golf. Et je m'étais préparée avec mes entraîneurs. J'étais bien en physique, j'étais bien en mental, j'étais bien. J'avais mes objectifs, j'avais mes petites routines. La technique, je la maîtrisais. Bon, voilà, on arrive souvent à des mêmes niveaux quand on se retrouve dans des grands prix. Je mène, on est au 16e trou, donc il y a 18 trous pour le dernier jour. Je mène, on n'était plus que deux. On était deux à être devant. Donc, ça se jouait entre une fille que je connaissais et moi. On est au 17e trou et j'ai de l'avance. Ces émotions arrivent. J'étais bien, l'émotion arrive et...
Ouais, c'est la fin et...
J'ai perdu... Alors, en fait, j'aurais pu... Il y avait deux solutions, bien sûr. Maintenant, avec du recul, j'aurais pu dire, c'est facile, tu aurais pu prendre le temps, peut-être d'assurer, de ne pas prendre des risques. Je suis quelqu'un qui aime prendre aussi des risques, parce que je trouve dans la vie, prendre des risques, ça amène des choses aussi. Et en fait, je n'ai pas assuré. J'aurais pu prendre ce qu'on appelle un club pour pouvoir... un petit fer, en fait, pour m'approcher tranquillement du drapeau. Et en fait, j'ai fait comme je fais tout le temps. J'ai pris le bois, c'est-à-dire c'est un des coups difficiles, un drive pour y aller. Et je savais au fond de moi quand même qu'il se passait quelque chose. Je ressentais, j'avais mal au ventre, j'avais un peu le rythme cardiaque qui battait. Et en fait, j'ai fait ce coup-là, le premier coup, j'étais tendue. Et alors là, c'était une catastrophe. Je suis partie dans les bois, j'ai pris la pénalité pour revenir. J'ai perdu sur ce 17e trou toute l'avance que j'avais. Alors là, je me dis, waouh! J'ai réussi quand même à me reconcentrer pour le dernier trou, parce que nous étions égalité sur le 17e, et tout se jouait sur le 18e.
Ah, wow.
Donc bon, j'aurais pu être confortable, tu vois, sur le 18. Non, donc me voilà sur une concentration, mais je sentais que il s'était passé quelque chose. Le 18e trou, toutes les deux, on a fait un départ superbe. Du monde à l'arrivée,
donc, oui, tout le monde,
la foule, voilà, tout le monde attend. On fait un deuxième coup, etc., très bien. On arrive toutes les deux sur ce qu'on appelle le green, proche du trou, et on fait toutes les deux quatre. On fait ce qu'on appelle le par. Waouh, on finit ce Grand Prix
à égalité.
Donc, on repart sur le premier trou, et là, c'est un peu comme la mort subite au foot.
Ouais.
Il faut se départager, la première qui va faire la meilleure performance sur les prochains trous va gagner. Et là, donc sur le numéro 1, c'est pareil, j'ai reperdu mes moyens. Et j'ai fait des coups, etc. Et j'ai perdu d'un point la grande finale pour aller en Écosse. Et ça, c'est resté en moi. Parce que émotionnellement, à la fin de ce Grand Prix, j'étais perdue. Je me suis dit, il y a quelque chose chez moi qui est intense, qui me dépasse. Et je ne sais pas. J'ai pas les armes. Alors, je dis le mot arme. C'est vrai, c'est un petit peu dur. Mais à l'époque, je le voyais comme une arme. Aujourd'hui, je le vois différemment. Mais voilà, ça m'est resté et ça m'a fait avancer après, quelques années après, quand j'ai fait mon introspection émotionnelle, j'ai pu remettre après mes séquences et j'ai compris beaucoup de choses.
C'était comme un roller coaster, en fait, entre trois trous. Je me dis, c'est vrai que si on sait que ça va arriver, que ça arrive, ce genre de choses, c'est un peu plus simple, du coup, de savoir naviguer. Il y a une citation que tu donnes sur ton site que j'ai reprise, c'est « Parce qu'un athlète qui se connaît émotionnellement, c'est un athlète qui gagne ». Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, du coup, se connaître ? Parce que c'est dur de poser des mots et de se dire « C'est bon, je me connais maintenant ». Et en fait, en quoi se connaître, ça aide vraiment à gagner ?
Cette citation, en fait, elle fera partie de moi, je pense, jusqu'au bout. Je dis toujours, c'est mon credo. Parce qu'en fait, c'est ce qui m'a changé la vie. Se connaître émotionnellement, alors on va découvrir ce que c'est. En fait, j'ai regroupé ça avec ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. En fait, c'est une compétence qui englobe plusieurs capacités. Donc, se connaître émotionnellement, la première capacité, c'est identifier ses émotions. Savoir les nommer. Savoir les différencier. Donc ça, c'est vraiment la première capacité. C'est pas forcément la plus simple. Ça paraît simple sur le papier.
Oui. Mais les enfants font ça.
Oui, tout à fait. Les enfants font ça. Ça se fait beaucoup dans les pays du Nord, avec, on verra aussi, la météo du jour, les petites pancartes avec les émojis pour savoir qui va bien, qui va moins bien. Mais voilà, ça, c'est déjà quelque chose qui va nous permettre de poser le... On verra un peu après, quand je vais le détailler, mais ne pas rester sur « ça va, ça ne va pas ». Voilà, donc ça, identifier première capacité, celle-ci, c'est celle qui va nous permettre de basculer sur la deuxième capacité qui est de comprendre ses émotions. Qu'est-ce que cette émotion, qu'est-ce que l'émotion que je ressens, qu'est-ce qu'elle veut me dire? À quel besoin est associée cette émotion? Donc ça, c'est pareil, mettre des mots MOTS sur ces mots MAUX. Ça, c'est une grande étape. Déjà, on fait 50% du travail en ayant fait ces deux étapes-là. Donc, identifier et comprendre ses émotions. Après, il y a une autre capacité. Alors, je peux même reprendre, parce que j'aime bien, je peux la mettre soit à la fin, mais j'aime bien la mettre au début. Quand on a vu, juste au départ, identifier ses émotions, savoir les nommer, les identifier. Cette capacité, on peut l'apprendre, mais pour les autres. Qu'est-ce que j'entends par pour les autres? C'est qu'on est capable, on peut être capable d'identifier, je peux être capable, moi, d'identifier mes émotions. Voilà, et les comprendre. Ça, on verra, c'est super intéressant. Et en fait, ça te permet aussi d'avoir des stratégies
pour ton adversaire,
adversaire, ou de savoir qu'à un moment donné, ton adversaire, il est avec son langage corporel ou autre, il est en difficulté. Toi, ça te permet aussi d'aller chercher ton énergie et faire ce qu'il faut à ce moment-là. Donc, l'autre capacité, la troisième capacité de l'intelligence émotionnelle, la troisième capacité qui est importante dans l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à gérer ses émotions. Qu'est-ce que j'entends par gérer ses émotions? C'est qu'est-ce que je fais de cette énergie émotionnelle? Comme on l'a vu pour moi tout à l'heure dans le golf, qu'est-ce que je fais de cette énergie qui me parle, qui fait des choses sur mon corps, qui fait que tout à l'heure, au golf, ça m'a tendu et que j'ai pas pu être décontractée. Le sport, c'est une décontraction. C'est une petite subtilité. Et la dernière compétence, celle qui va faire aussi qu'une fois qu'on a baissé cette intensité émotionnelle, comment je vais l'utiliser? Donc ça, c'est qu'est-ce que je vais faire de cette intensité-là? Comment je la transforme en énergie positive, en levier de performance? Elle me sert à quelque chose. OK, tout à l'heure, on a vu, je peux être submergée par mes émotions. C'est intense. Je peux travailler pour descendre cette intensité. Et une fois que cette intensité, elle est plus agréable, plus confortable, je peux la basculer et en faire un levier de performance. Donc ça, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle et c'est surtout se connaître. Pour moi, se connaître émotionnellement, c'est ça.
Ça fait un peu comme un petit graphe comme ça qui monte avec les émotions. On est un peu dans l'analyse de soi-même. On peut rester sur un flow qui est gérable.
Oui.
Et puis après, hop, ça repart parce que on a compris ce qu'on devait faire, quoi.
Exactement. Tu l'as bien imagé.
C'est bon. Je sais quoi faire.
Ce que je voulais dire par rapport à l'intelligence émotionnelle, c'est surtout ce que ça te permet, ce que ça t'apporte. Parce que ça peut t'aider aussi dans la confiance en soi et en tes ressentis, parce que tu vas vraiment apprendre à gérer ce qui t'amène, ce qui se passe. Ça va être aussi ta résilience émotionnelle. Ça peut être aussi ta confiance en tes capacités. C'est surtout ta gestion émotionnelle aussi, parce qu'on parle beaucoup d'atteindre le flow dans le sport, mais c'est avant tout atteindre le flow. C'est déjà de savoir être dans l'instant présent, de vivre ses émotions à l'état pur et en présence. Ça, c'est pour moi très important aussi. Les blocages qu'on peut avoir aussi, ça permet de les libérer, de mettre, comme on disait tout à l'heure, ces mots MOTS sur ces mots MAUX. Ça permet aussi justement de libérer certains blocages qui sont plus ou moins importants et profonds. Donc, ça permet de faire ressortir des choses.
Donc là, si on suit bien tous les points, on peut en fait développer cette compétence émotionnelle dans les mêmes lignées qu'on développe ses compétences sportives. Mais il y a des gens pour qui, comme toi, c'est une compétence innée. En quoi avoir cette compétence, ça ajoute de la valeur ajoutée, même toi, pour pouvoir suivre les athlètes?
En fait, l'avantage que j'ai, qui n'était pas forcément un avantage, je t'avoue, avant de découvrir que j'avais un haut potentiel émotionnel, qui n'est pas la même chose que le HPI. On entend beaucoup plus aujourd'hui le haut potentiel intellectuel qui se mesure par quelque chose de plus concret. Là, on parle d'émotion, donc on est dans l'abstrait. Donc voilà, c'est vraiment faire la part des choses entre le haut potentiel intellectuel et le haut potentiel émotionnel. En fait, oui, ça m'aide sur beaucoup de choses. Maintenant que j'ai compris qui j'étais et comment je fonctionnais, ça m'aide à ajuster davantage un coaching, c'est-à-dire d'être plus précise dans mon coaching, parce que le fait que je ressente, donc j'ai une hypersensibilité, le fait que je ressente les ambiances, que je ressente avec mon empathie profonde, je vais ressentir les signaux que quelqu'un en face de moi peut, comme par exemple toi aujourd'hui, je te sens bien, je vais ressentir, tu vois, des choses, et ça va m'amener à un coaching que j'appelle du sur-mesure. Parce qu'en fait, quand je commence avec un athlète, je vais me concentrer au départ et surtout ressentir, travailler mon instinct pour ressentir l'état émotionnel de l'athlète, pour m'adapter. Donc, mon coaching, il va pas être à droite ou à gauche, il va être vraiment centré sur, voilà, aujourd'hui, l'athlète, il va pas être bien, je vais sentir un stress en lui. Hop, je sais, je vais pas préparer mon rendez-vous, parce que la séance, elle se prépare pas, elle se fait sur l'instinct, sur l'instant. Donc ça, voilà, ça c'est une capacité que j'ai pu développer aussi, parce que c'est bien de dire qu'une l'intelligence émotionnelle est innée, mais après elle se développe et puis les expériences font que je vais peaufiner, je vais aiguiser ma manière de faire, puis j'apprends avec l'athlète aussi, j'apprends de lui, c'est une aventure. Donc je prépare pas mes séances, en fait j'affine, c'est du sur-mesure, c'est-à-dire que je vais voir l'état émotionnel de l'athlète quand je travaille par visioconférence ou sur site si besoin, mais tout de suite je vais avoir un ressenti. Comment est l'athlète? Par son langage corporel, j'ai une capacité à ressentir, mais aussi à capter les signaux invisibles par le langage corporel. Tu vois, par exemple, la lèvre mordue, par un petit grattement au niveau du visage, ou etc. Donc, toi, tout de suite, ça va me donner des signaux à moi pour me repérer, pour me dire, ouais, ok, je vois l'athlète. J'avais prévu de ça avec lui, je vais faire autre chose. Après, j'ai l'avantage aussi d'avoir ce qu'on appelle la pensée en arborescence. Alors, qu'est-ce que c'est la pensée en arborescence? C'est qu'une idée en amène une autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir une pensée, et puis après, on l'anime pas, on passe sur une autre pensée. Moi, j'ai une pensée qui émane une pensée, qui en amène une autre, qui amène une autre, et ça me permet d'être hyper créative. Parce qu'en fait, je peux partir sur un jeu, et puis dans le jeu, je vais y rajouter des choses à mon instinct, dans la manière dont le coaching va se dérouler. Je suis capable de partir dans d'autres choses, etc. Donc ça, c'est sympa aussi pour l'athlète. Et puis pour moi, ça me permet aussi d'avoir un coaching qui n'est pas formaté, qui n'est pas cadré. J'ai envie que ça soit aussi un terrain de jeu pour l'athlète. Et ce haut potentiel émotionnel me permet de faire plein de choses. C'est un peu ma petite baguette magique, j'avoue.
T'écris même sur ton site ce que tu vis, je le ressens avec toi, pour t'aider à le traverser, à l'apprivoiser et à en faire un levier de puissance, de bien-être et de liberté. Donc en fait, vous êtes ensemble dans le même bateau, si je comprends bien.
Ouais, c'est très bien dit. C'est vrai que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va vivre ensemble des choses. En fait, mon coaching, il part sur une aventure humaine. Parce que l'émotion, c'est pas, on va pas faire un one shot, on va pas faire vraiment à la séance. Ça demande un travail à deux. Ça demande de ressentir des choses. Donc, j'apprends à l'athlète aussi à ressentir des choses avec moi pour que lui apprenne de moi, mais moi que j'apprenne de lui. Et tout ça, c'est une alchimie, en fait. Donc, l'émotion, elle est intense pour les deux. Et moi, je ressens ce qu'il vit. Donc, je suis capable de mettre à sa place tout de suite, dans l'instant T, avec mon instinct, de savoir ce qu'il éprouve, ce qu'il ressent. Quels sont peut-être par exemple, s'il a une peur, qu'est-ce que derrière il peut faire? J'anticipe, je suis capable d'avoir un peu mon couteau suisse de possibilités d'anticipation, de réponse, etc. Donc ça, c'est génial. Ça demande de l'énergie, mais c'est génial.
Je crois que c'est la première fois sur Healthwise qu'on se détache vraiment du corps, même s'il y a toujours un lien entre les émotions et les corps, parce qu'on sait que les émotions, elles influencent la tension, la coordination, la récupération, la prise de décision, la perception de la fatigue. Tout ça, ça joue sur notre corps. On sait aujourd'hui que les athlètes, ils arrivent pratiquement tous au même niveau, parce que le coaching, il est presque partout pareil, et tout se joue souvent au mental. Mais est-ce que tu peux nous dire quand même, c'est quoi la différence entre un coach ou préparateur mental et toi, ce que tu fais?
Ça, c'est très important de poser les choses, parce que comme j'arrive avec un métier qui n'est pas connu, coach émotionnel sportif, on va tout de suite me mettre peut-être dans la même catégorie que le coach mental, alors qu'on va voir, et je vais t'expliquer comment mon approche est complètement différente. Je vais commencer par une métaphore déjà pour comprendre un peu mieux. Je prends une voiture. En fait, le mental, c'est le volant. Il te guide. Moi, l'émotionnel, c'est le moteur. S'il est saturé, s'il est abîmé, ta voiture, elle ne pourra pas avancer, même si tu as un très bon pilote. Donc, je ne sais pas si déjà là, ça te permet de voir déjà comment on voit les choses.
Ça, c'est le cerveau, c'est le volant.
On peut dire un peu, c'est la tête, les pensées. Et après, le cœur, le moteur, c'est l'émotion, c'est aussi le carburant que tu mets. Puis après, on peut aller très loin, parce que le carburant, si on pense à Sunday Natural, c'est aussi l'alimentation qu'on va y mettre. Et ça, c'est aussi très important. Donc là, il y a plusieurs piliers, mais je laisserai les gens... C'est pas mon domaine. Je laisserai les gens vraiment là-dessus, leurs compétences. Mais voilà, c'est pour te dire que on va pas parler de différence, c'est une approche, c'est une vision des choses. Le coach mental, aujourd'hui, il va travailler avec l'athlète au niveau de ses émotions. C'est surtout, il va essayer de lui apprendre à les contrôler, à les maîtriser, pour pas qu'elles nuisent à sa performance. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que peut-être il va se dire ça, pour que mes émotions n'empêchent pas que je puisse faire de belles choses, que je puisse performer, me sentir bien, que ça n'empiète pas. Donc il utilise des outils très codifiés, donc comme l'hypnose, l'EFT, donc ça je vais pas rentrer en détail, la PNL, programmation neuro-linguistique, il existe l'EMDR, etc., etc. Donc ça, on peut aller les rechercher sur Internet pour les gens intéressés. Donc ça, ça apprend à l'émotion qui arrive en toi. Qu'est-ce que j'en fais par ces outils-là? Faire peut-être aussi, on peut dire, une carapace. Mais l'émotion ne va pas venir en moi. Mmh. Elle va rester autour. Et elle va pas impacter ma performance. Moi, je pars dans un autre principe. Je me dis, on est avant tout d'être des athlètes. Nous sommes des humains, des femmes et des hommes. On ressent des émotions toute la journée, toute notre vie. Je me suis dit, mais pourquoi? Alors, je vais commencer par un exemple qui est dernièrement, si on peut parler de ce que j'ai vu à la télé. Peut-être qu'il y a des passionnés de tennis qui nous écoutent. Le dernier Roland-Garros, donc 2025, finale femme. Arina Sabalenka, première mondiale, contre Coco Gauff, deuxième mondiale. Elles arrivent en finale d'un grand chelem, avec une bonne préparation physique, souvent la même, surtout à ce niveau-là, la même préparation technique, une bonne préparation mentale. Elles savent pourquoi elles sont là, elles ont une fixation d'objectifs, elles ont leur routine qu'elles ont appris depuis des années. Arina Sabalenka, en plein match, sur une action, on sent ce moment de basculement qui fait qu'elle perd totalement sa gestion émotionnelle, elle perd ses moyens, elle s'agace, elle regarde son staff, elle est complètement perdue. Coco Gauff voit, elle a senti, elle a vu par ses signes d'agacement qu'elle avait quelque chose à faire et elle est allée gagner son match, l'Américaine a gagné son match. Et qu'est-ce qui a péché à ce moment-là? Ce sont les émotions. Même à ce niveau mondial, on se rend compte que c'est vraiment la gestion émotionnelle
qui fait la différence.
C'est-à-dire que c'est ça qui a permis à Coco Gauff, elle, de son côté, mais c'est surtout Arina Sabalenka qui a perdu son match de par cette gestion émotionnelle. Moi, je pars du principe que travailler avec ses émotions, c'est-à-dire apprendre à les identifier, les comprendre, je fais en sorte que l'athlète, toutes ses émotions, puisse valoriser leur performance. Il va apprendre à s'en servir.
Ouais. Du coup, est-ce que c'est compatible d'avoir une carapace et de laisser vivre ses émotions? Est-ce que c'est compatible d'avoir un coach mental et un coach émotionnel?
Alors, pour moi, je suis pas là pour dire qu'est-ce qui est bien, pas bien. Dans mon ressenti, la gestion émotionnelle, comme je la vois, c'est pour ça que j'amène ce métier-là. C'est justement, pour moi, elle doit faire partie intégrante de la vie du sportif. Il doit, en fait, l'athlète doit vraiment exister de par ses émotions et d'en faire une puissance.
Donc, c'est complémentaire pour toi.
Pour moi, je pense pas.
Ah ouais?
Ouais, je pense pas. Parce que justement...
Un coach mental, du coup, ça va bloquer plutôt que de faire une sorte de levier ou de trampoline.
Exactement. C'est pour ça qu'on l'a vu avec l'exemple de Roland-Garros. C'est-à-dire que le fait de ne pas travailler, de ne pas se connaître, de ne pas travailler avec ses émotions, comme on a dit juste avant, se connaître émotionnellement, ça va pas donner à l'athlète cette capacité d'aller là où il veut. C'est-à-dire qu'émotionnellement... Il va plutôt subir ses émotions que de pouvoir en faire quelque chose, d'être maître un peu plus de lui, de se faire confiance, de faire confiance à son instinct. On développe beaucoup d'instinct. Donc pour moi, c'est vraiment, je dirais pas l'opposé, mais c'est une autre manière de voir la gestion émotionnelle.
Mais c'est pas de la psychologie.
Ce n'est pas de la psychologie. En fait, la différence entre la psychologie et le coaching émotionnel, c'est le coaching émotionnel, on est vraiment dans l'instant. On est là pour travailler l'émotion, pour travailler le plaisir, pour travailler le bien-être, l'émotionnel en tant que levier de performance.
Parce que c'est un moteur.
C'est un moteur comme on l'a vu tout à l'heure pour la voiture.
Si t'aimes ce que tu fais, tu y vas à fond, quoi.
Exactement. Alors que le psychologue, lui, va travailler plutôt dans le passé et va travailler aussi surtout sur, ça peut être des blessures, sur des choses plus profondes.
Des blocages aussi.
Des blocages, etc. Donc là, on est sur quelque chose... Ça peut être aussi un mal-être. Ça peut être aussi un burn-out. Ça peut être des choses bien plus profondes. Donc ça, c'est... Moi, c'est vraiment plutôt une notion de plaisir.
Instant présent.
Instant présent.
C'est à ça qu'on va venir travailler.
Ouais. Et plaisir, instant présent, plaisir, émotion à l'état pur. Et je dis toujours, quand on a vécu, parce que je parle toujours de la Coupe du Monde 98 ou celle de 2018, nous sommes tous les premiers, les Français, à être fiers. On avait les émotions. On a décuplé nos émotions. On a vu des scènes de liesse. On s'embrassait. On pleurait. Donc, c'est bien que quand on sait vivre une émotion, on sait la ressentir, il se passe quelque chose, on l'a transformé en énergie, on était tous ensemble, c'était puissant, et on garde ce souvenir jusqu'à la fin de nos jours. Tu vois, le pouvoir, moi j'ai toujours le pouvoir extraordinaire des émotions.
Du coup, comment on fait pour travailler l'instant présent? Parce que c'est un instant qui s'en va juste après, donc c'est dur de se dire « je vais travailler ça ».
C'est surtout de dire « comment je vais être capable de canaliser mon énergie pour rester concentrée pendant un laps de temps ?» Moi, je te propose un jeu. Parce que moi, je suis... Voilà, mon accompagnement, c'est vraiment un terrain de jeu pour les athlètes. Et si ça te va, on part sur un petit jeu. On va prendre soit un fruit, soit... Qu'est-ce que tu as à me proposer?
Je mange pas de fruits.
Les chips.
Le seul truc que j'arrive à manger, c'est ce que je t'ai ramené. C'était des petites drops de chez Sunday, forcément.
Alors, ce que je te propose, c'est déjà de prendre une chips. On va travailler l'essence, S-E-N-S, pour justement te faire aller un maximum dans le présent. Alors, tu vas regarder cette chips. Ça paraît tout bête, mais tu vas l'observer comme si tu ne l'avais jamais vue. Et tu vas me dire, pour toi, à toi d'imaginer, tu peux le dire à voix haute, quelle est sa forme? Est-ce que sa couleur est uniforme? Est-ce qu'il y a des plis? Dis-moi un petit peu ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vois, comment tu vois les choses?
Déjà, je vois une belle goutte. C'est pas rond. C'est comme une goutte d'eau quand on dessine, quand on est des enfants. Mais c'est quand même vachement lisse. Et je vois que c'est aéré. En tout cas, il y a de l'espace.
Oui.
Et ça colle pas trop.
Est-ce que tu vois est-ce que tu vois des détails surprenants? Est-ce que tu vois des reflets?
Il y a un petit trou, une petite bulle d'air qui a explosé. Mais c'est quand même vachement lisse. Et je pourrais peut-être presque la prendre par la queue.
Alors après, tu vois, on va passer à la deuxième petit jeu. C'est que là, tu es... travailler, on va essayer de voir, ferme les yeux, je vais même te faire aller un peu plus loin. On essaie de voir pour faire rouler le fruit entre tes doigts. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'il est collant? Est-ce qu'il y a des différences entre les endroits? Comment elle réagit ta main à ce contact?
C'est un peu dur de faire rouler. C'est un tout petit peu collant, mais c'est comme quand on mange des bonbons et qu'il y a un peu de sucre autour. J'ai envie de me lécher les doigts.
Est-ce qu'il est tiède? Est-ce qu'il est froid?
Non, j'ai l'impression que c'est en train de fondre, donc j'évite de mettre trop mes doigts.
Justement, ça va nous permettre, s'il fond, ça va peut-être nous amener à quelque chose. Tu vas essayer de le rapprocher de toi pour essayer de le sentir, de le respirer. Quelle odeur vient en premier? Est-ce qu'elle est l'odeur, elle est forte? Elle est douce? Elle est fruitée, elle est boisée. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Qu'est-ce que tu ressens?
C'est pas très fort. C'est un peu comme un gâteau cuit. Oui, un gâteau de pâtisserie.
Si tu dis ça, est-ce que ça évoque un souvenir pour toi? Une saison, un lieu, quelque chose de précis? Une émotion précise?
Je pense juste à la pâtisserie de mon village le dimanche matin. c'est un peu caramélisé... le dessus des pâtisseries, donc c'est très lumineux.
Très bien. Je te propose maintenant, si tu peux le rapprocher de ton oreille, est-ce que, même si tu le presses un petit peu, est-ce que tu entends un petit bruit? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que tu entends un craquement, un frottement?
Non, je ne peux pas le presser. C'est dur.
Donc là, ça va être un petit peu difficile. Il peut y avoir un tout petit bruit, un petit craquement.
Ah, j'ai fait craquer.
Donc justement, ça va plus t'amener à la gourmandise. Et là, ouais. On va faire encore un pas de plus. Et je te propose de mettre ta chips dans la bouche, mais sans la mâcher. Ça, parce qu'on a toujours tendance, et surtout dans les gourmandises, à aller vite, à vouloir la mâcher et passer à autre chose. Donc là, juste en la mettant dans ta bouche, est-ce que tu ressens quelque chose, une texture, un goût, une température?
Bah, elle a presque disparu. Ça a fondu complètement.
Donc là, t'as ressenti justement que ça avait fondu. Mmh. Donc là, tu peux commencer maintenant à la mâcher, très lentement. D'être en conscience dans la mâche. Est-ce que le goût, il évolue un peu plus?
Il a fondu complètement trop vite. C'était trop vite. Je peux reprendre?
Bien sûr. On va aller directement dans la mâche. Comme ça, tu vas pouvoir le mâcher le plus possible. Là, on entend que ça craque. Et justement, est-ce que c'est sucré? C'est acide? C'est doux?
C'est acide. Comme du jus de citron. C'est sucré. C'est aérien.
Donc, tu vois, tu es capable de poser déjà énormément de mots sur déjà ce qui se passe. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont émaner aussi de cet exercice qu'on verra au fur et à mesure. Et là, tu es vraiment en instance. Tu es vraiment avec toi-même, avec ton ressenti, avec tes sens. Et quand tu as fini, moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir comment tu t'es senti. Est-ce que tu as eu des pensées? Est-ce que tu t'es senti vraiment dans l'instant présent? Est-ce que ça t'a permis de te concentrer? Qu'est-ce que tu peux me dire de cette expérience?
Je pense que j'étais trop excitée à manger. J'étais trop dans l'envie et la curiosité.
Mais après, dans ce que tu ressens, est-ce que tu sens que tu étais présente dans l'exercice?
J'étais présente, j'étais ouverte.
Ouais.
J'étais liée aussi à ce que les souvenirs que j'avais.
Tu as senti au niveau de l'ouïe, de l'odorat, tes sens. Est-ce que tu as senti que tu avais mis en marche justement tes sens à ce moment-là?
Oui, surtout le goût, parce que ça m'a donné plein de textures différentes et de goûts différents en fonction de si c'était déjà fondu ou si c'était crunchy.
Et c'est des sens, par exemple, les sens, comme ce que tu es en train de me dire, c'est quelque chose que tu fais régulièrement ou tu te rends compte qu'avec la vie qu'on a aujourd'hui, c'est quelque chose que tu ne fais pas, c'est-à-dire que tu vas manger, tu n'es pas forcément en conscience, tu es déjà sur des pensées, sur ce que tu vas faire après. Est-ce que c'est quelque chose là qui te permet de revenir au moment présent, à ta conscience, au moment, en fait, à toi?
Je suis revenue.
Je vois ça.
Je suis de retour. Moi, je sais que je prends beaucoup de temps à manger. Donc, je pense que je mange bien en conscience. Parce que je prends le temps pour mastiquer énormément. J'ai un problème de texture, même au niveau alimentaire. Donc, du coup, je fais attention à toutes les textures que je prends. Mais par la vue, par exemple, c'est plus dur pour moi de me concentrer sur quelque chose en particulier. Je suis toujours trop...
Beaucoup de stimuli autour de toi.
Ouais.
Donc peut-être qu'à un moment donné, savoir se recentrer, savoir se concentrer demande de l'énergie. De l'énergie.
Ouais.
Donc pour ça que l'exercice, le jeu qu'on vient de faire, ça permet vraiment de se recentrer quand on a une intensité émotionnelle qui nous arrive. Au lieu de se dire qu'est-ce que je vais faire, hop, on fait un exercice d'instant présent. Donc il y en a énormément. Là, j'ai proposé un exercice qui est connu. Je vais pas non dévoiler un petit peu l'approche que je fais avec les athlètes, parce qu'on travaille sur des jeux que j'improvise aussi, que je crée, justement pour pallier au fait de se dire je vais à droite, je vais à gauche, mais où je dois aller avec cette intensité. Hop, tout de suite, je baisse, je reviens, je suis dans l'instant présent, je suis à ce que je fais. Je peux me mettre à 100% dans ce que j'ai envie de faire, en fait.
Merci déjà d'avoir fait ce petit exercice pour être dans l'instant présent. Si t'arrives avec un athlète qui ne sait pas bien identifier et comprendre ses émotions, qu'est-ce que tu donnes comme petit exercice? Dans quelle direction tu irais pour une première fois comme ça?
Ben ça, c'est très intéressant. En fait, comme on disait tout à l'heure, c'est une des capacités de l'intelligence émotionnelle. Donc, cette capacité à identifier ses émotions. Alors, une chose très simple, pareil, qui est connue, en fait, ça s'appelle la roue des émotions. Qu'est-ce que c'est la roue des émotions? Donc, c'est un psychologue américain, Robert Plutchik, qui a créé cette roue. Parce qu'en fait, avec son travail, il a remarqué qu'on avait, bien sûr, nos émotions primaires. On va pas tous les citer, mais souvent on les connaît le plus, la joie, la tristesse, la colère, le dégoût.
Comme dans Vice-Versa.
Exactement.
Du Pixar.
Voilà, donc c'est un très bon... D'ailleurs, je rebondis dessus, sur ce que tu viens de dire, parce que ça, c'est un... Même pour tout, même les adultes, c'est un très, très bon moyen d'apprendre aussi à exprimer ses émotions, à les repérer, à les identifier. Comme la roue des émotions, c'est-à-dire qu'on va mettre les bases. En fait, il y a toutes ces émotions primaires. Et lui, il s'est dit, mais il y a des interactions entre ces émotions. Donc, une émotion primaire 1 plus une émotion primaire 2, ça va faire une émotion 3. Et cette émotion 3, ça va être vraiment la vraie émotion. C'est celle qu'on va vraiment ressentir. Et avec ça, ça nous permet de guider, on verra après, je vais peut-être pour toi, ce sera peut-être mieux que je donne un exemple et puis après de dire à quoi moi ça va me servir. Donc on va prendre la roue des émotions déjà, c'est un outil qui est très simple. Alors, allez, c'est une rosace hein, avec toutes les émotions. On va prendre un exemple. Donc Noémie, tu es athlète, tu vas faire ta première finale nationale en athlétisme, quand tu avais l'athlétisme, et tu vas être dans les starting blocks. Tu sais que c'est à ce moment-là que toi, en tant qu'athlète, tu vas te dire « j'ai peur ». Normal, il y a de l'enjeu. Et si je foire mon départ et mon staff, si je fais pas bien, qu'est-ce qu'il va penser de moi ? Donc là, on sent vraiment que la première émotion, c'est la peur. Mais toi, en tant qu'athlète, tu as souvent cette capacité-là, parce que tu as appris à anticiper. Tu vas te dire, alors oui, bon, alors ça veut dire qu'il faut que je parte, il faut que je mette tout dans mon départ, il faut que je sois gainée, il faut que je sois vraiment prête, tout se joue là. Donc tu vas anticiper une émotion, tu vas faire ça s'appelle l'anticipation, ton émotion, tu vas anticiper quelque chose, pas pour te rassurer, mais c'est presque instinctif. Donc la peur plus l'anticipation, donc si on regarde dans la roue des émotions, tu vas voir les deux, mais moi j'ai une roue que toi tu n'as pas. Parce que j'ai étudié avec une autre roue. Moi, l'athlète a une roue et moi, j'ai une autre qui fait les interactions entre les émotions. Et donc, cette interaction entre la peur et l'anticipation, ça va donner un stress, une anxiété. Et ça, c'est beaucoup de discussions avec l'athlète parce qu'on n'arrive pas à dire « j'ai peur comme ça, j'anticipe », ça donne le stress. Beaucoup de questionnements parce qu'on peut travailler aussi bien sur un entraînement ou sur une première finale, faire un feedback. Comment tu as été? Ben voilà, moi j'ai eu peur, j'ai eu ça, j'ai ressenti ça. Donc moi, je vais travailler justement avec la roue, la mienne aussi, par du questionnement pour arriver à dire, ben en fin de compte, c'est l'anxiété. Si je n'avais pas cette roue, ça changerait beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que si l'athlète, on en vient à dire, j'ai peur, je vais affiner, parce que moi je fais un coaching sur mesure, donc je vais affiner mon coaching sur une émotion qui ne sera pas la bonne.
Alors c'est pas juste de la peur.
Voilà, ce sera pas juste de la peur. La peur, vraiment, c'est une émotion. On parle de survie. La peur, c'est très, très, très fort. Donc, ça, on va discuter. On va essayer de rechercher des choses plus profondes. Qu'est-ce qui a fait que? Qu'est-ce que tu as ressenti? Par un questionnement, j'amène l'athlète à aller un petit peu plus loin. Alors, là, on a vu pour toi, l'anticipation, c'est quelque chose que tu as mis peut-être en automatisme. Dès que tu as une peur, toi, dans ta manière de vivre, tu vas tout de suite anticiper, soit pour te rassurer, soit c'est une routine que tu as apprise, mais tu vas faire en sorte d'anticiper quelque chose pour un peu plus contrôler. Tu vas vouloir au début contrôler.
Pour équilibrer, peut-être.
Équilibrer, faire une balance, tout à fait. Et donc moi, en ajustant, hop, je vais trouver que c'est l'anxiété. C'est pour ça que c'est important, et ça change tout pour moi, parce que j'adapte. Je vais viser juste, on va pas perdre du temps. Et puis faire des séances, ça demande peut-être plusieurs séances. Donc faire plusieurs séances sur la peur, alors qu'on part normalement sur l'anxiété, le stress, on va partir dans quelque chose qui le concerne pas ou qui la concerne pas, et on passe à côté d'un résultat et justement d'une gestion émotionnelle qui va pas être adaptée.
Du coup, c'est hyper important de faire du feedback. Après des compétitions, ce genre de choses, pour pouvoir bien identifier et qu'on ait encore en tête les émotions qui nous sont venues, non ? parce que comme ça, ça nous permet d'aller à l'étape suivante.
C'est très justement dit, Noémie. Le feedback est très important, que ce soit, qu'on en parlait tout à l'heure, pour la préparation mentale, mais pour la préparation émotionnelle, c'est très important, puisque l'athlète a besoin aussi de poser. Il a besoin de digérer des choses, digérer ses émotions, et de poser, comme on disait tout à l'heure, de poser pour mieux comprendre, mieux identifier ce qui s'est passé, pour mieux réagir.
On pose à l'écrit ou on pose à l'oral?
Je pars dans le principe qu'un athlète est très à l'aise avec le monde artistique. Je rencontre des athlètes qui sont très forts, dans l'instinctif avec, par exemple, le dessin. Ils sont capables, par exemple, d'exprimer leurs émotions par la voix artistique, par du dessin, par la peinture, etc. Donc, par le dessin, il y a des gens qui savent très bien s'exprimer et je retrouve des athlètes qui préfèrent exprimer, échanger avec moi sur quelque chose qui leur correspond. Ça, c'est l'objectif. L'objectif de faire de l'introspection émotionnelle, c'est se faire plaisir. Ça demande déjà beaucoup de choses pour un athlète. Ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande d'aller chercher des choses profondes. Donc, si on peut s'exprimer par la musique, on le verra un petit peu plus loin, par de la peinture, c'est parfait. Moi, ce que je te propose, c'est de parler d'un outil qui est très puissant, parce qu'il est intéressant au point de vue identification des émotions, mais compréhension aussi. Il peut faire les deux. Je t'explique. Je parle du carnet émotionnel.
Ok.
Tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est le carnet émotionnel?
Ouais, c'est quoi?
C'est quoi? C'est un peu comme un journal intime des émotions. Okay. Enfin, on a tout de suite peut-être un journal intime quand on était plus jeune. Mais justement, c'est un carnet où on va pouvoir poser. Alors, on parle toujours de poser des mots, M-O-T-S, sur ces mots, M-A-U-X, surtout c'est ces émotions. Je vais prendre un petit exemple. À quoi il sert? Poser des mots sur ces mots. Donc, un carnet émotionnel, à quoi ça sert? Ça peut servir sur plusieurs choses. Ça peut servir donc comme un moyen d'expression. On n'est peut-être pas forcément à l'aise de dire les choses par voie orale. On va peut-être se dire, mais moi, mon moyen où je me sens bien, celui qui m'anime, c'est d'écrire, de poser. Peut-être que j'ai une bonne plume aussi, alors si je peux en profiter. Donc, je pose mes mots. Alors, pour certains athlètes, je vais prendre Alice, on y reviendra après. Mais Alice, au départ...
Elle travaille avec toi?
Voilà, je travaille avec elle maintenant depuis qu'elle est partie aux États-Unis. Alice est une athlète de demi-fond, spécialiste du 1500 mètres et du 5000 mètres. Elle a décidé de partir aux États-Unis pour aller chercher un peu plus d'intensité, de préparation, plus de moyens, les niveaux sont autres aussi. Et elle s'est dit, les émotions, c'est quelque chose qui me parle. Donc, elle avait déjà une appétence pour les émotions. Et elle m'a dit, oui, moi, je suis prête à faire cette aventure. Ce qui m'a plu aussi, parce que c'est une aventure qu'on va aller à deux, parce qu'elle a des projets aussi à long terme. Hein. Elle vise aussi les Jeux Olympiques 2028. Donc, on part sur quelque chose qui a l'air sérieux comme ça. Mais je me suis dit, on va aller sur un terrain de jeu. On va vivre une aventure. Il va y avoir des émotions. Il va y avoir plein de choses, une richesse. Et elle m'a dit, ce qui est intéressant, moi, au niveau des émotions, c'est que j'en ai toujours plein. Mais je sais pas par quoi commencer. Elle me dit, moi, je verrais bien l'écriture. Je lui ai présenté aussi les différents outils, les différents moyens par lesquels elle pouvait s'exprimer, si elle était à l'aise par la musique, par plein de vecteurs, on va dire, artistiques. Et elle était à l'aise par l'écriture. Elle m'a dit, j'ai l'impression qu'il faudrait que je trie mes émotions. Alors ça, j'ai trouvé que c'était super bien imagé, parce que trier ses émotions... Je l'ai questionnée et elle m'a dit, on a toujours beaucoup d'émotions et on a besoin de les identifier. Je ne sais pas comment faire. J'ai dit, peut-être qu'on peut partir sur un carnet émotionnel. Alors nous, on a mis en place quelque chose qui lui ressemble, parce qu'après la discussion. Mais ensemble, Noémie, nous, on peut parler juste du carnet émotionnel comme si on en faisait un pour la première fois toutes les deux. À quoi il va te servir, par exemple? Comme on disait tout à l'heure, à poser tes émotions. Mais c'est quelque chose qu'on peut se servir tout simplement. Donc, déjà, mettre sur un carnet émotionnel l'émotion du jour. De faire peut-être le matin si on est à l'aise et de le refaire le soir. Ce qui a un intérêt, c'est qu'on peut voir au fur et à mesure de la journée comment nos émotions ont fluctué. Puis de le relire derrière. Donc, de voir au début, la journée, c'était pas terrible, j'ai pas très bien dormi, l'émotion était pas, le mood était pas très sympa. Je le pose, je fais ma journée, donc là, les émotions, toute la journée, il y en a eu d'autres. Et le soir, pourquoi pas avant de se coucher, de remettre l'émotion. Ah, je suis apaisée, j'ai passé une bonne journée et je me sens bien, je me sens sereine. et de refaire ça régulièrement pour voir si c'est les matins, comment tu fonctionnes le matin, comment tu fonctionnes l'après-midi. Et puis après, d'aller essayer de chercher qu'est-ce qui fait que mes émotions sont impactées. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mauvaises et de bonnes émotions. Toutes les émotions sont bonnes à prendre, mais comment je, qu'est-ce que j'en fais, en fait? Et avec les athlètes, c'est la même chose. Toutes ces émotions qui sont écrites sur leur carnet, ça va nous aider par de la relecture. L'athlète peut le relire de son côté, mais nous, on peut le relire à voix haute. Chacun fait ce qu'il veut. Et en fait, ça va nous permettre aussi de comprendre son schéma de fonctionnement. Avant un entraînement, Alice, elle me dit toujours, c'est les 15 jours avant où je sens que je suis déstabilisée, il se passe beaucoup de choses, les pensées, j'ai des insomnies, j'ai beaucoup d'émotions. Mais ce carnet, ça va lui apprendre à poser les choses, à prendre de la hauteur, à relire avec moi sur certaines émotions précises où elle sent qu'elle a des besoins. Et on va essayer de viser le plus juste possible. Donc ça, c'est un outil qu'on peut se servir, mais tout le monde peut s'en servir. Ouais. Et je m'en sers encore aujourd'hui.
Il y a beaucoup de gens qui se mettent aussi au journaling. C'est ça qu'on dit. Et du coup, faut se poser quoi comme question, juste comment je me sens?
Oui, en fait, faut faire parler son instinct. Comment je me sens? Peut-être se poser soi-même des questions. Pas hésiter à se dire, comme tu viens de le dire, comment je me sens? Qu'est-ce que je ressens? Je suis crispée de les sensations. Peut-être mettre des mots, des phrases. Ça laisse place à l'imaginaire. Mettre des dessins. On peut dessiner, on peut raturer, on peut faire ce qu'on veut. C'est libre. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont être plus littéraires, qui vont avoir besoin de construire un récit et de le poursuivre le lendemain. Et puis, ça en fera peut-être un journal et pourquoi pas un jour un livre. Mais chacun, peut prendre ce carnet comme bon lui semble.
Bah, du coup, c'est très marrant parce que on a posé des questions à Alice Seguin, et elle en parle de ce carnet. Je te montre les vidéos.
Avec plaisir.
Et on les partage avec les gens qui nous écoutent.
Et quand je ressens que les émotions m'envahissent un peu, maintenant j'ai le réflexe d'écrire sur un carnet ce que je ressens, et ça m'aide un peu à faire le tri dans ma tête et à comprendre ce que je ressens. Donc ça, ouais, ça c'est un outil qu'on a travaillé avec Delphine qui m'aide vraiment beaucoup.
Justement, c'est un très bon exemple. Et puis il y a quelque chose qui me parle dans ce que Alice vient de dire, c'est de dire j'ai le réflexe. Donc ça veut dire que cet outil-là, ça la conforte dans le fait que de poser, de trier ses émotions, elle y voit plus clair. Donc ça, c'est quelque chose pour moi qui... Je suis satisfaite pour elle parce que ça lui permet d'être beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée, de prendre des décisions plus justement, plus optimales, de prendre la confiance. On verra après que dans l'étape de l'intelligence émotionnelle, donc cette compétence qui regroupe toutes ses capacités, là, avec le carnet émotionnel, elle apprend donc à identifier ses émotions, comme on a pu le voir, on disait, donc c'est les nommer et les différencier, et après les comprendre. Donc le fait qu'elle ait son carnet, elle trie tout ce qu'elle a dans sa tête, elle les pose, et puis après ça lui permet de les relire et de qu'on voit ensemble pour faire après des débriefings, etc.
Une dernière vidéo.
Oui, vraiment, avec Delphine, j'ai appris à reconnaître mes émotions et à les accueillir. Notamment en reconnaissant l'émotion et le symptôme qui est associé à mon corps. Par exemple, des fois, je peux sentir ma gorge qui se serre quand j'ai peur, quand je suis stressée ou quand j'ai peur d'une échéance sportive. Donc ça a été une grande aide pour être bien performante.
Très juste aussi.
On parle de symptômes.
Oui, je pense qu'on s'est arrêté sur le même mot, Noémie.
Oui.
On parle de symptômes. Comme quoi l'émotion, elle se rend compte à quel point l'émotion, elle peut impacter son corps. Il se passe quelque chose. Elle dit, quand je suis stressée, j'ai un boule à la gorge, ça peut être mal de ventre, ça peut être etc. Et elle le ressent fortement. Donc le fait de poser, d'écrire sur son carnet émotionnel, de comprendre ses émotions, lui permet justement d'être plus apaisé. Donc on sent vraiment que ça lui fait du bien. On le sent vraiment sur la vidéo, que c'est quelque chose qui l'anime aujourd'hui.
Et comment on passe à l'étape d'après, une fois qu'on a identifié, on a compris? Qu'est-ce qu'on fait après?
Alors, j'aime bien toujours revenir sur l'intelligence émotionnelle. Je sais que c'est pas toujours évident et cette compétence, elle a toujours ses capacités. Donc on a vu, comme tu viens de le dire très justement, on reprend toujours, on identifie ses émotions, on est capable de les différencier, de les nommer. La deuxième, on vient de la voir, la deuxième capacité, c'est de les comprendre, donc avec le carnet émotionnel par exemple. Et la troisième capacité, c'est de gérer ses émotions. Waouh, c'est un grand mot aussi de dire ouais. Je vais gérer mes émotions. Comment on fait quand
je gère pas du tout aussi, on peut dire ça.
Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est qu'est-ce que je fais de cette intensité émotionnelle que je ressens au plus profond de moi. Donc, je sais pas toi si tu as eu cet exemple quand tu faisais du cross-country.
Ouais, je faisais du cross-country en compétition. Je gérais pas trop et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait me dégoûter. Aussi de la compétition parce que il y avait l'excitation, il y avait la peur, il y avait le stress, il y avait la frustration aussi des autres personnes qui me faisaient du mal ou qui étaient très méchantes. C'était vraiment
oh oui,
horrible.
Comme
quand, mais j'étais de Rouen aussi, je faisais les mêmes compétitions, je pense que Alice faisait il y a quelques temps. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là où il y a tout ça qui arrive, il faut qu'on redescende sur terre, quoi.
Ouais, tu dis que c'est un trop-plein en fait. Ouais. Ces émotions, on ne sait pas quoi en faire.
Elles arrivent. Je les connais, je sais ce qui se passe, quoi.
Elles arrivent les unes après les autres, on les cumule et puis on en fait quoi.
Mais c'est que des négatives.
Oui, parce que pour toi, dans ta manière de voir les choses, elles étaient assez négatives. Donc, pour gérer, par exemple, toutes ces émotions que tu ressens en trop-plein, même qu'elles soient négatives ou qu'elles soient positives, je te propose un jeu aussi très intéressant, jeu qui est connu aussi. On va faire ensemble la respiration diaphragmatique.
Alors, comme au théâtre.
Ouais, bien, parce que le théâtre, les chanteurs.
J'ai fait du théâtre. Voilà,
donc ça, c'est super. Donc c'est quelque chose que tu dois, à mon avis, connaître.
Oui.
Mais je pense que c'est toujours bien de la refaire. Moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps, tous les jours. Je vais la faire avec toi, d'ailleurs.
Ok.
En fait, qu'est-ce que c'est la respiration diaphragmatique? C'est surtout, et surtout, pourquoi parler diaphragme? Donc on est au niveau du ventre. Quand on est, et on regarde aujourd'hui les bébés, ils respirent tous, on voit leur ventre qui monte et qui descend. Au fur et à mesure de la vie, le stress, les choses de la vie, toute cette société qui va vite, on a la respiration qui monte et qui arrive plutôt ici, thorax. Et cette respiration, elle amène de l'anxiété. Donc, l'objectif, c'est de redescendre cette respiration, la ramener au thorax, pour amener plus de sérénité, de détente. Donc moi, je te propose, on va le faire ensemble. Si tu veux bien, on va commencer par juste mettre une main sur son ventre. Tout le monde peut le faire. Et une main sur son diaphragme. Tu peux fermer les yeux ou les laisser ouverts, ça a peu d'importance. Au début, je pense que c'est bien de faire comme on le ressent. Et puis en même temps, de se dire, je suis là, je suis dans l'instant présent. J'ai aucune pensée spéciale qui va arriver. Et puis si elles arrivent, bon, on les laisse passer, on s'y attarde pas. Et puis je t'aiderai justement pour qu'on revienne dans l'instant présent. Parce que c'est ce qu'on va travailler. Parce qu'on a vu tout à l'heure avec le travail de la chips. Mais là, on va le travailler avec la respiration. Donc, je te propose de ressentir que ton ventre, ta respiration, d'inspirer et de faire en sorte que ton ventre monte, c'est-à-dire qu'il gonfle, comme si, en fait, ta main, tu voulais pousser ta main. Donc, on peut même le faire à la maison en se mettant allongé sur le dos, jambes repliées, avec un livre. Je trouve que l'exercice, il est sympa au début de mettre un livre parce que l'objectif, c'est de voir le livre qui se lève et au niveau de la poitrine, donc ta main gauche, elle ne doit pas bouger. Donc, je te propose de faire une inspiration, mais tranquillement, d'essayer de chercher ton rythme, sans forcer, et de voir quelle main... Moi, j'ai vu, Noémie. Mais tu forces... Essaie de pas forcer, voilà. Mais là, l'objectif, c'est que de pas se dire quelle main doit monter, c'est se dire, je vais essayer de respirer dans l'instant. On imagine comme si c'était une vague qui montait, voilà, et qui redescend, et tu expires, et que toutes tes mauvaises énergies, si tu as envie de les libérer, tu les libères. Et tu réinspires tranquillement. Tu vois, déjà, c'est mieux. Et tu commences à te relâcher, à revenir dans l'instant présent. Tu peux avoir des pensées aussi. C'est pas grave, tu peux les accueillir. Leur dire que tu vas pas les nourrir. Même si tu es visuel, tu peux essayer de les transformer en petits nuages et même les laisser passer. Et tu reviens à ta respiration. Tu sens ton ventre qui se lève. Et tu sens à l'inspiration. Et tu sens ton ventre qui rentre à l'expiration. Et t'essayes de chercher en toi ce qui te correspond le mieux en termes de rythme. Je sens que c'est beaucoup mieux, Noémie. Parce que là, j'ai vu la main gauche qui ne bougeait plus. Donc tu vois, je sens une relaxation chez toi au niveau de ton visage. Je le fais en même temps, ça me fait du bien.
Tous ensemble. Aussi les gens qui nous écoutent. Hein. Bah, déjà, je suis déjà mieux.
Mais tu vois, par exemple, cette intensité qu'on peut avoir juste avant, on peut avoir une intensité de faire un podcast, ça demande aussi de l'énergie. Ça nous a permis, tu vois, de redescendre, on dit, de redescendre d'un cran.
Ouais.
De se sentir un peu plus apaisé, d'être à ce qu'on faisait. On était vraiment dans notre respiration. Et on est arrivé justement à baisser cette intensité pour pas qu'elle nous dépasse. Et c'est là où la chose va commencer à être intéressante. C'est qu'on va pouvoir passer à l'étape suivante.
Ouais, bien sûr. La courbe que
ouais,
je
on voit la courbe
tout
de tout à l'heure. Et puis on voit, là, on a pris un exemple de respiration diaphragmatique. Il en existe beaucoup. Je travaille avec les athlètes, avec beaucoup la musique guidée. Je mets ma voix sur certaines musiques. On le travaille, même s'ils sont musiciens. Il peut y avoir des athlètes musiciens. S'ils ont envie d'exprimer, de libérer cette intensité, ça peut être de taper dans quelque chose, mais juste dans un coussin, même de faire des mouvements dans l'air. Il peut y avoir énormément de choses qui fait qu'on baisse cette intensité. On se sent mieux, on sent qu'on est prêt à passer à l'étape suivante.
Donc l'étape suivante, c'est le levier. C'est d'utiliser ça, cet état émotionnel comme levier.
Oui, tout à fait. En fait, c'est l'intensité qu'on a su baisser dans l'étape d'avant. Celle-là, on va s'en servir pour justement en faire quelque chose, pour la transformer en bonne énergie, en levier de performance. Moi, je dis, c'est notre boussole. On va aller là où il faut. Alors, c'est très difficile de le faire en podcast parce que c'est quelque chose qui demande de le faire en... Par exemple, un sportif, je lui fais faire des choses en direct, mais sur de l'instinct. Donc moi, je ne peux pas faire quelque chose de concret, puisque c'est la dernière étape, elle se fait instinctivement, on travaille ensemble sur l'instant. Donc ça veut dire
et qu'il sur va... les besoins aussi, s'il y a besoin de présence, s'il y a besoin de puissance, concentration, ça peut être différent ce qu'on a besoin aussi.
Chacun a des besoins différents. Admettons, par exemple, pour Alice, elle va avoir peut-être ce besoin. Une fois qu'elle a géré cette intensité émotionnelle, elle disait tout à l'heure, et c'était très intéressant, parce qu'elle parlait de symptômes, la gorge nouée. Ben, pour quelqu'un qui court, c'est embêtant.
On a besoin, hein,
on a
de,
besoin
cette
de ça.
Ouais.
On a besoin d'être libre, d'être libéré. Donc, cette intensité, son stress qu'elle peut avoir, une fois qu'elle a baissé cette intensité, on va essayer d'aller chercher là où mettre ce qui reste. En fait, c'est comme si c'était ce petit delta qui restait. Je le mets où? Elle va peut-être le mettre dans son sprint. S'il lui reste 100 mètres à faire, elle va mettre cette énergie-là au moment qu'elle l'aura choisi. Et ça, on le travaille ensemble. Donc, un sprinter, ça peut être dans les starting blocks, comme on a vu tout à l'heure. Je mets ça dans ma vitesse. Et je peux mettre ça dans autre chose.
J'ai un ancien athlète que j'ai rencontré il y a quelques temps pour une interview sur notre chaîne YouTube, à qui j'ai posé quelques questions, les mêmes que j'ai posées à Alice. Et en fait, il disait quelque chose d'intéressant sur la redirection de l'énergie, du mood. Et du coup, je te laisse voir les vidéos.
Salut à tous, je m'appelle Enzo Tézic, j'ai 25 ans, je suis un ancien membre de l'équipe de France de natation, plutôt spécialiste du 200 mètres crawl, 200 mètres catnage. J'ai eu l'occasion de faire les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Et puis, j'ai été médaillé de bronze au championnat d'Europe en 2022 en relais 4 fois 200 mètres nage libre. De toute façon, mes émotions, elles ont un impact direct sur ma performance. Je le voyais très souvent entre un meeting de préparation au lieu d'un peu plus dans le dur et puis des gros championnats. Ce qui faisait la différence, c'était pas seulement l'état de corps, mais c'était aussi l'état émotionnel où j'étais entre des championnats où j'étais extrêmement confiant avec beaucoup d'enthousiasme, d'envie, de niaque. Et puis, des fois, des meetings de préparation où c'était un peu plus dur, avec un peu moins d'envie, d'enthousiasme, très certainement. Et ça a joué, en tout cas, sur les perfs que je faisais. Je pense que la dernière fois où j'ai eu du mal à ressentir mes émotions, c'était sur mes derniers championnats de France. C'était notamment lié à une déception sur une de mes courses. Et c'était assez difficile de réussir de switcher d'un état émotionnel un peu négatif à un état émotionnel plutôt de motivation, plutôt euphorique. Puisqu'en natation, on peut parfois enchaîner les courses très rapidement. On peut avoir plusieurs courses dans la même après-midi, plusieurs finales dans la même après-midi. Et c'est vrai que réussir à switcher d'un état soit de déception, soit d'un état euphorique, un état beaucoup plus calme, beaucoup plus concentré, c'est vrai que c'était un sacré challenge. Je pense être du style à ressentir mes émotions et puis à les laisser couler, à les laisser aller un peu comme ils sont. Si par exemple je me sens frustré, laisser cette frustration passer. Normalement, ça finit toujours par passer. Et puis si auquel cas je dois essayer de changer un peu d'état émotionnel, Je vais me reconcentrer complètement sur autre chose, sur des choses qui me font plaisir, sur des choses qui me donnent envie, pour que je sois un peu plus performant et dans un meilleur mood.
Oui, du coup, il redirige lui-même ses émotions ou cette frustration. Il dit qu'il la laisse passer. C'est, pour toi, t'en penses quoi ?
En tout cas, c'est très intéressant comme témoignage, Enzo, parce qu'en fait, ce que je retiens en premier, c'est que quand il avait des émotions, il est redirigé, mais vers autre chose. C'est pas la même redirection. C'est-à-dire que quand il ressentait des émotions, il les contournait. Mmh. Il n'allait pas dessus. C'est-à-dire, il est pas au fond de lui pour essayer de bien les identifier. Là, il les avait quand même plutôt bien identifiés, mais après, d'essayer de les comprendre pour après les gérer et les utiliser. Là, ce que je comprends, c'est qu'il avait des émotions, et quand il les avait, il les laissait passer. C'est-à-dire, les laissait passer, c'est-à-dire qu'il y va pas dessus. Et qu'il allait faire autre chose, il allait se concentrer ou aller sur des choses qui lui donnaient du plaisir. Donc là, c'est pas du tout, moi, le travail que je fais faire. C'est-à-dire que on a une émotion, on reste dessus. Et on va lui parler, on va faire en sorte qu'elle nous dise des choses. Parce que cette émotion-là, si on ne la dit pas, on la laisse dans un tiroir. Et par exemple, l'athlète peut aller faire autre chose, prendre du plaisir à prendre un bouquin ou aller vraiment se concentrer sur autre chose, mais pour pas rester dans l'émotion. Pour moi, il y va pas. Mmh. Je sais pas si tu me suis. Mmh. Donc moi, c'est le chemin inverse que je souhaite que l'athlète fasse. C'est surtout pour lui. Parce qu'en fait, le fait de rester dessus, de travailler ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, ça va permettre qu'il se connaisse mieux, qu'il ait plus de savoir en fait pour qu'est-ce que je peux faire pour répondre, qu'est-ce que je mets en place. Il a parlé de résilience. Je pense pouvoir switcher à un moment donné. Cette résilience émotionnelle peut être rapide parce qu'il va connaître exactement comment il réagit par une émotion de déception. Donc se connaître émotionnellement, c'est ça. Je suis déçu. Qu'est-ce que ça fait en moi, cette émotion ? Parce que je sais que je la comprends, je suis déçue, c'est que j'avais mis des choses derrière, j'avais une attente peut-être personnelle, une attente pour son staff, je suis déçue, donc ça engendre quand même pas mal d'émotions. Ça, c'est on prenait la roue, un travail derrière, ça peut aller loin aussi. Et en fait, se connaître émotionnellement, il peut se dire, ok, je sais comment je fonctionne, je sais comment cette émotion, ce qu'elle fait chez moi, dans mon corps, je sais souvent l'intensité qu'elle me donne, et je sais comment la baisser par des exercices d'instant présent, par des choses que nous, moi, je mets en place au niveau artistique, corporel et ludique. Donc là, c'est intéressant de voir que l'athlète lui-même se dit, oui, j'ai l'émotion, il le sait, mais il y va pas, parce qu'il a dit, je contourne et je vais sur quelque chose qui me fait plaisir. C'est comme s'il voulait un peu l'étouffer.
C'est dur de rester sur une frustration aussi quand on a une autre course qui nous attend juste derrière.
C'est pour ça qu'il faut savoir, il a dit, switcher très rapidement son état du moment. C'est pour ça qu'il faut être tout de suite dans l'instant présent et se connaître. Il peut mettre tout de suite en place des outils. Alors, des outils qu'il aura lui-même mis dans sa boîte à outils. Moi, je donne des clés. On travaille sur des jeux. Et après, l'athlète, il peut choisir les jeux avec lesquels il est le plus à l'aise, etc. Mmh. Donc oui, pour lui, ça lui permettrait de pouvoir aller plus vite, gagner du temps, switcher justement ce mood qu'il a, ce mood émotionnel qui était pas sympa. Il disait, mais moi, j'ai une course derrière à enchaîner. Je me sens pas forcément bien à celle que j'ai faite d'avant. Comment me remobiliser, etc. Mmh. Mais émotionnellement, ça fait la différence. Lui, il a travaillé plus sur quelque chose autour pour, comme vous voyez tout à l'heure, plus avec un coach mental. Je ne sais pas s'il a un coach mental, mais voilà, plus sur le côté, je maîtrise, je les ai en tout cas, les émotions, ça c'est bien, mais je les maîtrise d'une certaine manière en me protégeant un peu autour, en faisant un peu ma petite carapace, en me mettant des choses que j'aime, d'aller dans des endroits, ou voir des gens, discuter, mais on ne reste pas dans l'émotion.
J'ai interrogé d'autres athlètes, parce qu'il y a un peu plus d'un an, j'avais aussi reçu une surfeuse professionnelle française qui s'appelle Tessa Thyssen. Bah du coup, je vous partage à toutes et à tous, même ceux qui nous écoutent, ce qu'elle nous a donné aussi comme témoignage. Je la laisse parler dans l'extrait et on revient tout de suite à ma prochaine question.
Salut, moi c'est Tessa Thyssen, j'ai 28 ans et je suis surfeuse professionnelle. J'ai été pendant plusieurs années membre de l'équipe de France et sur le top mondial en deuxième division, qui est le Challenger Series. Personnellement, je suis super contente que le travail émotionnel prend sa place chez les sportifs de haut niveau, parce que c'est vrai qu'avant, je pense que on subissait tous un petit peu ces choses-là, ces situations-là, sans vraiment se rendre compte que effectivement, on peut essayer de trouver des clés ou des solutions pour essayer de travailler sur ça et faire place justement à une performance encore plus forte qu'avant, grâce à ça. Ça peut être justement tourné dans le positif. Et c'est ça qui me fascine, en fait. Je suis hyper ouverte et super intéressée de pouvoir faire ce travail-là. J'ai la chance d'avoir une super bonne équipe qui m'entoure pour pouvoir justement parler ouvertement de mes émotions, essayer de comprendre ensemble, essayer de trouver des solutions ensemble, notamment parce que je suis hyper sensible. Donc là, c'est compliqué de gérer tout ça, et encore plus avant, quand je n'étais pas consciente de tout ça. Donc je suis hyper contente de pouvoir être bien entourée et d'avoir des personnes aussi bienveillantes autour de moi.
Oui, il y a deux choses qui m'ont marquée dans son témoignage. La première, c'est psychological safety. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça en français, d'avoir un environnement qui soit...
Une bulle.
Ouais, une bulle qui soit saine.
Bienveillante.
Voilà, où on puisse s'exprimer. Surtout si on a un staff qui attend beaucoup de choses de nous, des fois ça peut être peut-être mal interprété, mal vu d'avoir ces émotions qui puissent être partagées. La deuxième chose, c'est qu'elle mentionne d'être hypersensible. Donc déjà, je me dis, en comparant mes compétitions, est-ce que je pouvais déjà avoir ou être vite submergée par la foule, les gens autour, les imprévus? Je me dis, si t'es hypersensible, peut-être encore plus besoin d'un accompagnement émotionnel, sûrement.
Pour répondre à ta question, un grand oui. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, je suis au potentiel émotionnel et j'ai une hypersensibilité. Et là, je reprends ce qui est intéressant, ce que dit Tessa, c'est on parle de la bulle. Cette bulle émotionnelle, elle est primordiale. Cette bulle bienveillante, où on peut être libre de parler de ses émotions, mais surtout aussi avoir quelqu'un qui soit là pour les écouter. Pas que les écouter, aussi les entendre. Puisse aussi faire un travail de projection, puisse ouvrir aussi le champ des possibles. Les émotions, on peut faire énormément de choses avec la partie émotionnelle. On peut aller jusqu'au rêve, on peut aller loin. Et je trouve ça très intéressant aussi de dire que les émotions, oui, elles sont prises en compte aujourd'hui, mais le coach mental le prend en compte depuis des années. Un coach mental, on l'a revu tout à l'heure, il parle aussi bien de fixation d'objectifs, comme on l'a vu, des routines, de performance, etc., etc. Mais il a aussi la partie gestion émotionnelle. Jusqu'à présent, c'est le coach mental qui avait la partie gestion émotionnelle. Mais dans sa gestion émotionnelle, il va travailler les émotions de l'athlète. Comme j'ai repris tout à l'heure, il va l'aider à les maîtriser et à les contrôler pour qu'elles ne nuisent pas à la performance. Et c'est là le switch pour moi qui est intéressant. Et quelqu'un d'hypersensible encore plus, puisque hypersensible dit émotion décuplée, très tous les stimuli. On a du stimuli partout. On est très sensible, moi la première, aux ambiances, aux lumières.
Aux personnes,
à leur énergie, à leur regard, à leur posture. Puis je pourrais en citer énormément. Donc on est presque un peu comme un buvard, c'est-à-dire on a une empathie.
Une éponge.
Voilà, une éponge. Après, porter ça, ça peut être aussi un trait de personnalité, c'est-à-dire l'hypersensibilité, elle a chez elle, elle la développe au fur et à mesure. Après, le haut potentiel émotionnel, c'est un profil, c'est encore deux choses différentes. Et dans le profil du haut potentiel émotionnel, il y a l'hypersensibilité, l'empathie, comme on a vu tout à l'heure, etc., la pensée en arborescence, pour reprendre, etc. Donc, important, oui, pour une hypersensible, de travailler surtout sur ses émotions, mais avec ses émotions. Parce que travailler sur ses émotions, on peut tous le faire. Le coach mental, il le fait. On travaille sur les émotions de la tête. De là à les identifier, vraiment les nommer, les différencier, on reprend aussi au contraire, les comprendre, les gérer et savoir l'utiliser, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. C'est une spécialisation que j'ai voulu faire parce que ça demande énormément de travail. Je ne veux pas faire peur aux athlètes, mais ça demande énormément de travail, d'introspection personnelle. C'est pour ça que je pense... Et j'en suis convaincue que c'est une partie qu'on devrait faire à part. Voilà. Que l'athlète devrait voir avec quelqu'un à part. Et surtout une hypersensible, déjà tous les athlètes en général, l'hypersensible a besoin de quelqu'un qui en face va comprendre tout de suite qui elle est, de quoi elle parle. Et ça, ça demande énormément. Parce qu'aujourd'hui, ça ne se travaille pas forcément si facilement, parce que l'athlète a aussi un moyen de fonctionnement, un moyen de voir le monde. On dit toujours, moi j'ai une palette différente peut-être émotionnelle des gens autour de moi, mais ça va me demander aussi que quelqu'un soit là pour comprendre la même langue, je veux dire, de laquelle je parle. Et cette langue, elle est complexe, elle est dans une complexité, elle est dans quelque chose qu'on ressent, qu'on vit à travers nous. C'est-à-dire, on en parlait tout à l'heure, on ressent des choses profondes, ça agit sur nos prises de décision, etc. Notre corps, il parle, on en parlait de boussole, mais notre corps, il nous guide, il nous dit, oh là là, il y a quelque chose qui se passe en moi, qu'est-ce que je fais de tout ça? Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Aujourd'hui, l'émotion, par exemple, elle me fait quelque chose dans mon corps, et moi, je sais pas quoi en faire, mais j'ai quelqu'un en face de moi qui va comprendre que j'ai une particularité, une singularité dans ma manière de voir les choses. Ça, c'est super important. Moi, c'est ce qui m'a changé la vie aujourd'hui de comprendre ce que c'était que l'intelligence émotionnelle. Alors, on va dire oui, mais Delphine, elle dit, c'est inné. Oui, c'est inné. Bon, je l'ai pas su pendant des années. Je ressentais parce que ça peut être inné, mais on s'en sert pas. Parce que on se sent différent. On sent que notre façon de voir le monde est en décalage ou ne correspond pas. Donc, on sait qu'on a quelque chose et on le met sur... Moi, je l'ai mis sur le côté. Comme j'ai fait le golf, après, j'ai mis de côté. Et j'ai réappris à me faire confiance, à me dire ce que je ressentais. Mais c'est peut-être ça, la personne que je suis. Et j'ai remis en avant mes émotions. Je les ai remis... Bah, c'est surtout le burn-out, hein, on a beau dire. Moi, j'ai attendu qu'il y ait quelque chose. J'aime bien... Je parle plutôt aujourd'hui de prévention. Et moi, ça m'a servi aussi. Parce que on ne parlait pas d'émotions avant. Donc aujourd'hui, on a la chance de pouvoir parler d'émotions. On peut s'en servir avant qu'il se passe un burn-out, une blessure grave, parce que ça demande de la résilience derrière. Et d'avoir quelqu'un, justement, qui va être là pour comprendre que votre singularité va vous apporter quelque chose, elle va devenir une richesse. Ça, c'est super.
Merci beaucoup pour nous avoir fait découvrir ce sujet. C'était vraiment passionnant et j'espère que ça inspire des super athlètes qui nous écoutent. En règle générale, je trouve même que c'est un bon parallèle avec ce qu'on peut vivre au quotidien. Donc, il n'y a pas que les athlètes qui peuvent avoir besoin de prendre en compte leurs émotions, parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est lié aussi au corps. C'est lié à notre état. Si chez vous, vous souhaitez continuer à suivre Delphine, ça se passe sur ton site internet, delphineaubert.com.
Déjà, merci Noémie de m'avoir permis de pouvoir déjà exprimer mes émotions avec toi en direct. Parce que moi aussi, ça me demande toujours pour même un travail comme ça, d'un podcast. Mais ça, je ressens maintenant chez moi plus de richesse, puis une palette de couleurs qui est beaucoup plus profonde. De me laisser aussi m'exprimer sur quelque chose de nouveau, parce qu'on sait que la nouveauté fait souvent peur. On parle du coaching mental, du coaching physique, du coaching technique. Et aujourd'hui, dans un monde, comme tu disais, de performance, de puissance, que je puisse aussi dire qu'il y a une place pour la sensibilité. On est avant tout, on est avant tout des êtres humains, des femmes, des hommes qui ressentent des émotions tous les jours. Et ça, c'est vraiment important de dire que de vivre avec, c'est être bien avec soi-même et
avec son corps.
Avec son corps. Et de pouvoir avancer en toute sérénité. Et moi, je dis toujours avec calme, équilibre et sérénité. Voilà. Merci en tout cas.
L'équilibre, c'est très important. On le répète vraiment dans tous les épisodes de Housewives. Donc, j'espère qu'on va continuer à aborder des sujets aussi passionnants que le tien, que tu nous as apporté aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous avec Sona Natural. Toi, tu prends des compléments alimentaires?
Je prends des compléments alimentaires parce que je fais beaucoup de sport. Donc, j'en fais le dimanche, mais pas que. Ouais. Dès que j'ai du temps libre, je suis au sport. Je prends des compléments alimentaires. Alors, certains plus régulièrement, d'autres en cure. Donc, je prends le magnésium, bisglycinate.
Classique,
voilà, je fais la thé. Donc, ça, je prends pratiquement régulièrement, surtout avec le sport. Je pense qu'on a besoin. Alors, pour les gens aussi qui ont une tendance au stress et qui vont faire après ce travail émotionnel. C'est important aussi le magnésium, puisqu'on prend avec ce stress et le magnésium a tendance à diminuer. Je prends aussi de la vitamine C. Là, une bonne cure de vitamine. Moi, je le prends en cynorhodon, mais je peux le prendre aussi dans d'autres versions. Oui. Alors, les oméga-3, je peux les prendre aussi bien par l'alimentation, donc par l'huile de lin, que par, en fait, beaucoup d'oméga-3. Je consomme beaucoup de maquereaux, sardines, le saumon.
Un petit poisson gras.
Voilà. Après, je prends de la spiruline.
Ouais.
Ça, c'est quelque chose que je connais depuis maintenant 20 ans.
Waouh.
Ouais, en paillettes. Ça, c'est de la protéine. Donc, soit je reste sur la spiruline, soit je vais sur la protéine de chanvre ou la protéine de riz qui m'amène aussi beaucoup de protéines en plus. Parce que voilà, je trouve que c'est important. Je suis flexitarienne, donc voilà, je fais attention aussi. Je suis quelqu'un qui est toujours cette culture aussi alimentaire. J'ai une très bonne éducation alimentaire et ça, c'est important. Je prends aussi, et j'adore d'ailleurs celui de chez vous, l'ashwagandha.
Latte. Ah ouais.
Que je mets avec une petite touche de cacao en poudre et un petit peu de café, de petits grains de café lyophilisés. Et ça amène beaucoup de... C'est chaleureux avec l'ashwagandha pour le stress. Ça permet de... C'est très réconfortant, je trouve, comme boisson. Qu'est-ce que je prends aussi? Je prends...
glycine, glutamine.
Oui, je prends de la L-glutamine. Ça, c'est pour aussi la flore intestinale. Je prends des probiotiques. Ça, je fais des cures aussi. Du collagène marin. Aussi, ça, tout ce qui est... pour les, tu vas m'aider, les articulations. Ça, c'est super important aussi. Voilà. Je suis pas la course au complément alimentaire, mais je les varie. Et pareil, j'écoute aussi mes émotions, mon corps, et en fonction des émotions et de ce que je ressens, je vais tendre plus pour faire une cure de tel ou tel produit. Voilà. Ça, c'est comme quoi, ça peut être lié aux émotions.
Malgré la bonne éducation alimentaire, on a besoin de compléments, quoi.
Oui.
Merci pour ta petite liste personnelle.